Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez ce matin, nous attendons vos réactions sur la reprise du procès d'Hissène Habré. C'était hier, Hissène Habré est jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité lorsqu'il dirigeait le Tchad dans les années 80. Hier, la parole était donc aux avocats des victimes. Ils ont insisté sur la responsabilité individuelle et pénale de l'ancien président, car selon eux, Hissène Habré exerçait un droit de vie et de mort sur son peuple avec sa redoutable police politique, la DDS. En tout cas, hier, l'ancien président est une fois de plus resté de marbre. Il n'a pas dit le moindre mot. Hissène Habré ne reconnaît ni le tribunal spécial créé pour son procès, ni ses avocats commis d'office. Alors que vous inspire justement son silence? Que pensez-vous de cette stratégie de défense? Et dites-nous, vous qui nous écoutez notamment au Tchad, ce que vous attendez d'un tel procès. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Et nous attendons également vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter ou encore sur notre page Facebook, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Célestin nous appelle de Yamoussoukro, il est en Côte d'Ivoire. Bonjour Célestin.
Bonjour monsieur.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions concernant la Cour pénale internationale?
Oui. Depuis l'ouverture du procès Babo, la CPI attire l'attention. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi les grandes puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome qui régit la CPI. Je vous remercie.
Surtout, ne raccrochez pas et vous allez pouvoir remercier Stéphanie Meopa, qui est journaliste à La Haye. Elle a contribué à l'excellente enquête sur la Cour pénale internationale réalisée par la rédaction internet d'RFI. Bonjour Stéphanie Meopa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez notamment publié aux éditions Don Quichotte Le Joker des puissants, le grand roman de la Cour pénale internationale. Alors effectivement, Célestin a raison de s'interroger sur cette question importante, le fait que les trois pays membres du Conseil de sécurité, ces trois pays qu'il vient de citer, les États-Unis, la Chine et la Russie, n'ont toujours pas signé le statut de Rome. Comment expliquer la démarche de ces trois pays?
Bien, tout simplement, parce que ces trois pays veillent jalousement sur leur souveraineté. Ils ne souhaitent pas que le procureur d'une cour internationale puisse un jour cibler leurs soldats ou leurs chefs politiques. Et au moment de la négociation du traité de la cour, il faut remonter à 1998, ils voulaient que cette cour soit placée sous le contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU, que ce soit le Conseil qui décide quand et surtout où elle pourrait enquêter. Alors, ils n'ont pas gagné, puisque le procureur peut décider de lui-même d'ouvrir une enquête, et c'est la raison première pour laquelle ils n'ont pas ratifié son traité. Mais ils sont néanmoins parvenus à ce que le Conseil de sécurité ait le pouvoir de suspendre une affaire lorsqu'elle constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. Alors, jusqu'ici, ils ne l'ont jamais fait, malgré des demandes de l'Union africaine qui voulait suspendre les procédures de la Cour contre les présidents kényans et soudanais, Uhuru Kenyatta. Et lors de la négociation du traité, ils ont aussi obtenu que le Conseil puisse saisir la Cour. C'est ce qu'il a fait pour les crimes commis au Darfour et en Libye, alors que ni Khartoum ni Tripoli n'avaient ratifié son traité. Et le Soudan, soutenu par de nombreux pays africains, avait donc reproché aux grandes puissances de s'asseoir sur la souveraineté de leur pays, tout en préservant la leur.
Ouais, on rappelle tout de même, Stéphanie Meopa, concernant les États-Unis, que Bill Clinton avait signé le statut de Rome, et peu de temps après son entrée en fonction, le président George Bush avait tout simplement annuler la signature de Bill Clinton, estimant, comme vous le disiez, que la Cour pénale internationale constituait finalement une remise en cause de la souveraineté nationale. Ce qui est intéressant de souligner, Stéphanie Meopa, c'est que ces trois pays, les États-Unis, la Chine et la Russie, ont une attitude différente vis-à-vis de la CPI.
Oui, tout à fait. Du côté de la Chine, on reste très en retrait à chaque fois que la question fait débat à New York. Eh bien, Pékin rappelle simplement le principe de non-ingérence, le respect de la souveraineté. De son côté, elle, la Russie n'hésite jamais à dénoncer les travers de cette cour, mais elle ne prend aucune action qui pourrait l'entraver. en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, alors on va voir si Moscou reste sur cette ligne, hein, puisque la Russie pourrait devenir plus offensive depuis que fin janvier, la procureure a ouvert une enquête sur les crimes commis lors de la guerre éclair russo-géorgienne de l'été 2008. Et puis du côté des Américains, vous l'avez dit, on s'est d'abord frontalement opposé à la Cour, et puis aux alentours de 2010, hein, avec l'arrivée de Barack Obama, Washington a décidé de coopérer avec elle lorsque ses actions rejoindraient les intérêts américains. Ils ont ainsi permis la livraison à La Haye d'un chef de l'armée de résistance du Seigneur. Mais par exemple, lorsque la Palestine est devenue le 123e État parti à cette cour il y a un an, eh bien, ils s'y sont publiquement opposés.
Merci beaucoup Stéphanie Maupas d'avoir été avec nous. Et puis je renvoie évidemment les auditeurs à cette enquête exclusive réalisée par la rédaction internet d'RFI pour tout savoir sur la Cour pénale internationale, la CPI, ses dossiers, son pouvoir, ses limites. C'est sur RFI.fr ou encore sur afrique.rfi.fr. 9h16 ici à Paris, vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. Bonjour Nadia Oroum.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez du Tchad, vous êtes à N'Djamena.
Oui, effectivement, N'Djamena.
Et vous avez des questions sur Julian Assange, oui. Le cofondateur de Wikileaks.
Oui, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a publié sa décision. Mmh. À cet effet, il y a des questions. Que va-t-il se passer maintenant que l'ONU doit sa décision en faveur de Julian Assange? Quelle soit à sa décision?
D'accord. Que va-t-il se passer? Alors ça, c'est une bonne question, effectivement, d'autant que ce comité, ce groupe de travail des Nations Unies a estimé que la privation de liberté de Julian Assange était arbitraire. Béatrice Leveillé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. On rappelle que depuis bientôt 4 ans, Julian Assange s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour échapper à une extradition vers la Suède. L'ONU, en tout cas ce groupe de travail, réclame sa libération. Que peut-il se passer, nous demande cet auditeur.
Eh bien, écoutez, rien ou pas grand-chose, parce que la décision de ce panel de 5 juges n'est qu'une valeur symbolique. Elle ne s'impose pas aux juridictions nationales. La Suède et la Grande-Bretagne ne contestent pas la décision, mais ces deux pays considèrent qu'elle ne change rien. Pour les Britanniques, le mandat d'arrêt international doit toujours être appliqué. Les autorités britanniques sont très claires. Julian Assange sera arrêté s'il sort de l'ambassade d'Équateur, où il est réfugié depuis 2012. Quant aux Suédois, eh bien, ils considèrent qu'ils doivent toujours l'entendre pour envisager ou non des poursuites contre lui dans une affaire qualifiée de viol par la justice suédoise. En fait, il aurait refusé de mettre un préservatif avant des relations consenties avec deux jeunes femmes suédoises.
Eh bien, donc ça signifie que aussi bien Londres que Stockholm restent sur leur position initiale malgré donc le verdict, la décision de ce groupe de travail des Nations Unies.
Absolument, alors que le panel de juges quand même a un certain nombre de reproches à faire aux autorités britanniques et suédoises, parce que ils reprochent notamment au procureur suédois de ne pas avoir fait le déplacement à Londres pour entendre Julian Assange, qui ne veut pas se rendre en Suède parce qu'il a peur d'être extradé aux États-Unis. Alors la Suède a beau affirmer qu'elle n'a connaissance d'aucune demande d'extradition des États-Unis, cette demande peut tomber après l'extradition d'Assange vers la Suède.
Il faut quand même rappeler qu'officiellement, Julian Assange n'est accusé de rien aux États-Unis, hein, pour l'instant.
Oui, on peut rappeler un peu qui il est d'ailleurs. En fait, Wikileaks, c'est une ONG qu'il a fondée en 2006 pour publier des documents fournis par des lanceurs d'alerte sur Internet. Plusieurs millions de documents concernant des scandales de corruption, d'espionnage, de violation des droits de l'homme ont été publiés ces dernières années par Wikileaks. Et parmi eux, des vidéos, photos et des textes sur des bavures de l'armée américaine ou sur des échanges diplomatiques qui mettent à mal la diplomatie américaine.
Et les États-Unis n'ont jamais pardonné la publication de tous ces documents. La Suède et le Royaume-Uni donc contestent cette décision. Quel recours désormais pour Julian Assange?
Bien, écoutez, Assange peut s'appuyer sur la décision de l'ONU pour espérer un accord politique ou juridique avec les Suédois et les Britanniques. Enfin, le sauvetage du soldat Assange viendra peut-être de son pays natal, l'Australie, qui pourrait lui fournir une assistance consulaire et un nouveau passeport, le sien lui ayant été retiré par les autorités britanniques. Mais il faut rajouter aussi quelque chose. Hier, on a appris que le prix Albert Long, le prestigieux prix de journaliste, sera remis à Londres en solidarité avec Julian Assange.
Merci beaucoup Béatrice Leveillé. Bonne journée Nadji Orom et merci d'écouter RFI à N'Djamena au Tchad. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous écouter au Tchad. Vous suivez évidemment le procès d'Hissène Habré, de l'ancien président tchadien, procès qui se déroule à Dakar, au Sénégal, dans la capitale donc sénégalaise, devant un tribunal spécial créé pour l'Union, par l'Union africaine. Qu'attendez-vous d'un tel procès? Que vous inspire d'ailleurs l'attitude d'Hissène Habré depuis l'ouverture de son procès? Hissène Habré qui ne reconnaît ni ce tribunal, ni ses avocats commis d'office. Il n'a pas dit un mot depuis l'ouverture de son procès. Nous allons évidemment en parler grâce à vos appels, vos réactions, vos témoignages. 33 9 693 693 70. Drabzi, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako, au Mali, et vous, vous avez des questions sur Google.
Oui, oui.
On vous écoute.
En fait, la semaine dernière, nous avons appris que Google est parvenu à dépasser Acorn en termes de capitalisation boursière. Et à ce sujet, j'ai une question.
Oui.
Comment explique-t-on que Google est parvenu à détourner Apple, alors qu'on sait que celle-ci engrange plus de profits que Google?
Effectivement, c'est vrai, vous avez raison. Google a surpassé Apple, la holding Alphabet qui regroupe donc les différentes activités de Google est devenue la semaine dernière la première capitalisation boursière mondiale avec, tenez-vous bien, 542 milliards de dollars. Google devant Apple sur les marchés. Et vous avez raison, Drabzi, en termes de bénéfices, eh bien c'est le contraire. La firme Apple a gagné beaucoup plus d'argent, hein, durant le dernier trimestre de 2015. Elle a gagné autant d'argent que Google en un an. On va essayer de comprendre justement le pourquoi du comment avec Myriam Berber. Bonjour Myriam.
Bonjour à tous.
Alors expliquez-nous comment Google est-il parvenu à détrôner Apple alors que la firme à la pomme enregistre des bénéfices supérieurs.
Effectivement, Juan, Apple a perdu la première place. La maison mère de Google, Alphabet, détrône désormais Apple sur les marchés. Sa capitalisation boursière atteint 542 milliards de dollars contre 532 milliards pour Apple. Sur l'ensemble de l'année 2015 qui vient de se terminer, Google a augmenté son bénéfice net de 12% à plus de 16 milliards de dollars. Ces bons chiffres viennent surtout des activités historiques du groupe qui regroupe le cœur de métier de Google, à savoir le moteur de recherche, la publicité en ligne, le système d'exploitation Android et la plateforme de vidéo YouTube. Ces activités classiques ont enregistré à elles seules des bénéfices de 20 milliards. Le tableau est moins rose du côté des activités d'innovation, les fameux projets futuristes.
Notamment la voiture sans chauffeur.
La Google Car, les objets connectés ou bien encore les fameuses recherches en biotechnologie. Ces activités ont fait perdre à Google plus de 3,5 milliards de dollars. Des paris sur le long terme qui engloutissent beaucoup d'argent, mais qui ont convaincu les marchés et les investisseurs. D'où cette bonne valorisation boursière. Les investisseurs qui achètent des actions de Google misent sur cette nouvelle stratégie d'investissement. Ils apprécient également la transparence du groupe qui a séparé ses activités principales de ses investissements.
Alors, Apple s'est donc fait devancer sur les marchés. L'action Google, il faut quand même le rappeler, Myriam Berber, a grimpé de plus de 40% depuis un an. Celle d'Apple, elle, elle a perdu plus de 15%. Et pourtant, Myriam, Apple enregistre toujours des bénéfices.
Oui, de gros bénéfices, Juan, mais en stagnation depuis 2012. La raison est simple, le groupe est très dépendant de l'iPhone. Les deux tiers des revenus du groupe proviennent des ventes du smartphone. Or, pour la première fois, ces ventes devraient baisser en 2016. Autre problème, les ventes de sa tablette, l'iPad, ont également baissé, moins de 20% en 2015. Quant à l'Apple Watch, la montre connectée, le succès n'est toujours pas au rendez-vous. C'est un produit encore trop cher pour le grand public, sans compter la concurrence qui propose désormais des modèles moins chers, notamment les fabricants chinois. On le voit, la mort de Steve Jobs en 2011 se fait clairement sentir. Chez Apple, il y a un manque d'innovation majeure, un mauvais signe pour les investisseurs. Le géant américain doit donc chercher de nouveaux relais de croissance. Dans ses tiroirs, il y aurait la fameuse iTV, une box qui pourrait permettre de connecter tous les terminaux dans la maison façon domotique.
Ah, on l'attend donc avec impatience, cette fameuse iTV. Merci beaucoup Myriam Berber. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste vraiment à une montée en puissance de l'économie numérique. numérique. Il y a encore 5-6 ans, c'était des compagnies pétrolières qui étaient les principales entreprises cotées en bourse au monde. Et désormais, eh bien, ce sont des entreprises liées à l'économie numérique. Merci Myriam, bonne journée Drabzvi, merci de nous avoir appelés de Bamako au Mali. Il nous reste 5 minutes, le temps d'accueillir Omar qui est au Sénégal. Bonjour Omar.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous avez des questions sur la Birmanie?
Oui, effectivement Juan. J'ai appris sur RFI de l'ouverture du nouveau Parlement en Birmanie. Mmh. Et par rapport à ce sujet, je voudrais comprendre comment Aung San Suu Kyi et ses membres du parti comptent faire pour réussir la transition politique et démocratique en Birmanie.
Alors, bonne question, et c'est vrai que tous les regards sont tournés vers Aung San Suu Kyi, son parti, puisque le premier parlement démocratiquement élu depuis, on va dire, plus d'un demi-siècle, est entré en fonction la semaine dernière. Olivier Guillard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de recherche Asie à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Les partisans d'Aung San Suu Kyi sont majoritaires dans cette assemblée. Son parti, rappelons-le, est arrivé largement aux têtes lors des élections du mois de novembre. Comment Aung San Suu Kyi et ses militants vont-ils s'y prendre pour réussir cette cohabitation avec les militaires, pour ne pas brusquer le régime sortant?
Eh bien, écoutez, donc pour l'instant, les choses se passent relativement bien. La Ligue nationale pour la démocratie, donc le parti de l'icône démocratique nationale, Aung San Suu Kyi, est en train de poser tranquillement ses cartons dans ses futurs appartements, dans ses futurs ministères. Et pour l'instant, donc, le mot d'ordre est réconciliation nationale. Vous l'évoquez vous-même à l'instant. Donc, nécessité de bien s'entendre en bonne intelligence avec l'armée et essayer de poser de nouveaux jalons pour les uns pour les autres dans une atmosphère de sorte de pré-concorde, sachant que la démocratie est une institution qui a longtemps été voulue mais qui est encore bien frêle encore en Birmanie, et que pour que celle-ci puisse dérouler sa feuille de route et prendre donc ses fonctions au 1er avril donc de cette année, eh bien le prochain gouvernement, la prochaine administration, pardon, donc aux couleurs de la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, a besoin de s'entendre en amont de tout cela avec l'armée, de ménager ses susceptibilités et probablement de lui accorder quelques privilèges, quelques garanties dans un futur relativement proche. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, donc peu de choses fuitent. Madame Aung San Suu Kyi, qui est une femme discrète et qui n'a pas coutume de beaucoup partager les informations, pour l'instant se fait plus encore donc discrète sur le sujet, mais on estime Rangoon, l'ancienne capitale birmane, est dans la nouvelle, à Naypyidaw, dans le nouveau centre du pouvoir depuis une petite dizaine d'années, que des tractations vont bon train, et pour l'instant, les signaux ont l'air d'être relativement convenables d'un côté comme de l'autre.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va devoir faire des compromis, d'autant qu'un quart des sièges dans cette nouvelle assemblée sont réservés à l'armée, et qu'au sein du futur gouvernement, trois ministères importants seront réservés à des militaires.
Absolument. Donc le cadre constitutionnel actuel, qui est un cadre qui a été rédigé pour et par les militaires donc avant 2008, réserve un quart des sièges dans toutes les assemblées hors scrutin aux militaires, donc à la chambre haute, à la chambre basse et dans les chambres régionales. Et comme vous le disiez justement à l'instant, il y aura quoi qu'il en soit dans la prochaine administration aux couleurs majoritairement de la Ligue nationale pour la démocratie, et bien il y a trois grands ministères, des ministères régaliens qui échappent à l'autorité et du gouvernement et du président, dont vous venez de les nommer, c'est défense, ministère de l'intérieur et les questions des affaires frontalières. Ceci donc relèvera uniquement du chef d'état-major des armées, qui conserve aujourd'hui, et plus encore certainement demain, encore une place importante, cardinale, non pas uniquement dans les questions sécuritaires, mais également dans les questions de politique intérieure et politique étrangère.
Alors, Olivier Guillard, puisqu'on parle de transition politique et démocratique, un mot tout de même sur ce futur gouvernement. Qui sera le chef? Qui sera le grand patron de ce gouvernement?
Eh bien, écoutez, si nous avions la certitude d'avoir l'information exacte, nous la partagerions volontiers avec nos auditeurs.
Mais c'est bien pour ça que je vous pose la question.
Donc, pour l'instant, les choses sont assez simples, en définitive. La constitution, donc, le cadre constitutionnel du moment et le cadre électoral ne permettent pas aux électeurs d'élire le prochain chef de l'État. Donc, la chose se fait d'une manière collégiale. Le Parlement, réuni en chambre haute, chambre basse, se réunira, donc, d'ici la mi-mars, pour désigner trois vice-présidents, donc un qui sera nommé en fonction de la couleur du Sénat, enfin de la Chambre haute, la Chambre basse en fera autant, et les militaires vont également présenter un troisième donc, candidat, ce sont trois candidats à la vice-présidence.
Ah oui.
Une fois que ces trois candidats ont été connus, bien chacun votera sur un des trois vice-présidents potentiels, et celui sur lequel se portera le plus de suffrages deviendra tout simplement le prochain chef de l'État.
Le prochain chef de l'État, effectivement. En tout cas, les prochaines semaines s'annoncent pas.